spread it a smoke. Can't stop this man from crying, need an antidote. Now it would be my darkest time to see you walk away. It would probably be my
shame. 9h.
L'heure, c'est la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Alors cette semaine, je vous propose d'aller sur un festival qui s'appelle Le Murmure du Monde, qui parle chaque année d'écologie, un festival d'auteurs, de réflexion, très intéressant. Et j'avais quelques idées de rencontres ici qui malheureusement ont échoué, mais j'ai fait deux belles rencontres en la personne de deux formateurs qui se connaissent mais qui ne travaillent pas ensemble. Donc c'est intéressant parce que ce sont deux formateurs aux enjeux environnementaux. Ils font des conférences, ils agissent pour certains, ils agissent auprès d'entreprises, auprès de fonctionnaires, d'élèves, voilà, tous les sujets. Et avec eux, j'avais envie de vous parler, partager avec vous ce travail de formation, ce travail de pédagogie autour de l'environnement, comment on passe le message, quel message, quelles sont les barrières qu'ils peuvent rencontrer dans les publics qu'ils rencontrent. Il s'agit de Caroline Vigier Calmette, bonjour.
Bonjour.
Et d'Éric Ross.
Bonjour.
Alors, j'ai pas l'habitude de faire des émissions à deux, mais on va y arriver ensemble. Comment vous en êtes arrivé à la formation pour vous? C'est quoi? C'est du militantisme? C'est arrivé de manière naturelle? Est-ce que c'est vous étiez formateur et ensuite vous allez sur la formation écologique, ou est-ce que c'est l'écologie qui vous a donné envie de former?
Moi, je suis de formation ingénieure et j'ai travaillé plus de 15 ans dans le domaine de la santé. Donc, je n'étais pas forcément dans l'écologie au départ, même si j'étais assez sensible à la nature, puisque j'ai fait des études dans les sciences du vivant. Et on va dire que mon électrochoc de vie pour m'amener à ça, ça a été de vivre 4 ans dans une tribu kanak au large de Grande Terre qui s'appelle Lifou, dans les îles Loyauté, où j'ai pris 15 000 km dans la vue, mais j'ai pris bien plus que ça. Dans ma tête, mon cœur et mon corps. Je suis partie avec ma petite famille et mes 3 enfants, mon ex-conjoint, et ça a été une aventure de vie qui m'a ouvert sur justement les peuples premiers. On en parle beaucoup ici au festival Murmure du Monde, qui ont beaucoup à nous apprendre en toute humilité sur le lien au vivant. Et donc là-bas, j'ai commencé à changer de métier puisque j'ai travaillé sur un programme de préservation de la biodiversité avec les peuples autochtones et avec pas mal de métiers convergents là-bas, avec des médecins, avec des associations, avec des élus. C'était passionnant. Et quand je suis revenue en métropole, j'étais transformée. J'avais envie de partager, déjà d'en savoir plus. Donc je me suis beaucoup formée par moi-même, j'ai beaucoup lu. Et je me suis rendue compte que ces enjeux environnementaux, ils ouvraient des portes aussi sur... Hors de la science, sur tout ce qui est philosophie, sur tout ce qui est communication et coopération entre les personnes, culture, littérature. Enfin, c'était extrêmement riche, hyper angoissant aussi, parce que je me suis rendu compte que je m'étais trompée sur pas mal de choses. La société m'avait dit beaucoup de choses et il y avait beaucoup de choses à remettre en cause. Donc j'ai eu envie de me former d'abord et ensuite de transmettre. Et ça fait 10 ans que je le fais. On l'a fait d'abord avec Eric et ça a été une rencontre professionnelle pour le faire auprès ou d'entreprises ou d'associations par l'intermédiaire de fresques. Et je continue à le faire aussi dans les écoles d'ingénieurs, puisque quand j'ai moi-même été formée en école d'ingénieurs, tout le pan sur et l'ouverture sur les enjeux socio-environnementaux n'existait pas à l'époque.
Alors toi, Eric, c'est quoi ton parcours?
Moi j'ai aussi un parcours d'ingénieur à la base. On a même fait la même école d'ingénieur, l'INSA Toulouse pour pas la nommer, avec des années d'écart et on se connaissait pas du tout à l'époque. Par contre, moi après 15 ans d'ingénierie informatique, J'ai eu la chance de pouvoir voyager autour du monde et je faisais de la photo sous-marine un petit peu et de la plongée scientifique, pas encore mais presque. Et je me suis retrouvé lors de plongées à enlever un sac plastique de la bouche d'une raie manta océanique. Ça a été un peu mon épiphanie parce que ça m'a mis en colère en fait. Voilà, c'est un animal qui peut faire jusqu'à 7 mètres d'envergure, donc c'est une rencontre déjà qui est impressionnante, qui est majestueuse. Et de me rendre compte que risquer d'avaler et de mourir à cause d'un sac plastique là, qui traînait là, qui n'avait rien à faire là. Et je me suis intéressé à la pollution plastique dans les océans. Et de là, en fait, j'ai tiré toute la pelote après des enjeux environnementaux. Je me suis formé en faisant une reconversion professionnelle en plongée scientifique. J'ai accompagné quelques missions sur du marquage requin, du suivi corallien. Et puis petit à petit, après le Covid, j'ai décidé d'arrêter en tout cas de manière pro la plongée. J'avais du mal à en vivre de toute façon et puis j'avais plus envie de prendre l'avion pour aller sur des missions même si elle avait du sens à l'autre bout de la planète. Et du coup de là j'ai créé avec les expériences et expertises que j'avais une offre de services, de conférences et formations aux enjeux environnementaux et je me suis formé aux enjeux climat, biodiversité terrestre, raréfaction des ressources. Bref, comme je disais tout à l'heure, tous les sujets joyeux, j'interviens dessus et j'essaie de voir comment apporter ces sujets-là de la meilleure façon aux gens pour qu'ils aient envie d'agir et qu'ils se servent de leurs émotions aussi pour passer à l'action.
Alors c'est quoi pour l'un et l'autre le message que vous essayez de passer le plus? C'est quoi qu'est-ce qui vous anime vraiment? Toi tu l'as dit un petit peu rapidement, quel est le sujet fondamental en écologie pour vous? Quelle est votre porte d'entrée et votre porte d'arrivée, on va dire?
Alors moi j'ai envie vraiment de transmettre de l'espoir. Parce que je suis passée par beaucoup d'émotions avant d'avoir cet espoir. Comme tu disais, Eric, beaucoup de colère et d'anxiété. J'ai 3 enfants. Du coup, j'ai envie aussi qu'ils aient de l'espoir. Donc déjà, c'est un peu mon mantra. Et dans ce que j'enseigne aussi ce qu'on appelle de la prospective. Alors, on le voit aussi à Murmure du Monde, il y a beaucoup de livres qui se projettent, beaucoup d'utopie, dystopie, de prospective. C'est un petit peu à la mode, mais oui, quand les modes sont bien, autant les prendre, parce que celle-là, elle fait du bien aussi de se projeter positivement. Donc voilà, c'est une façon aussi de donner du savoir. Et on l'a dit tout à l'heure dans une conférence ici, pour mieux se projeter derrière et pour faire des choix éclairés en fait, et pas pour se laisser embarquer. Et ce que j'essaie surtout de faire moi quand je transmets, c'est décaler les gens, parce qu'on est vraiment dans une société capitaliste qui nous met dans des voies, ça a été mon cas. J'avais pas l'impression d'avoir le choix et d'avoir l'esprit critique pour ça. Donc c'est vraiment un de mes, voilà, de l'espoir, l'esprit critique et de l'éthique aussi.
Et l'espoir, c'est quoi? Tu présentes des initiatives positives ou comment tu donnes de l'espoir?
Je pense que c'est ça qu'il faut transmettre. Se dire que même si on est une petite minorité, alors parfois mon espoir il diminue, hein, en ce moment c'est un peu compliqué, c'est un peu par vague, vu l'actualité. Oui, pour essayer de montrer des exemples qui marchent, pour essayer de dire, là par exemple aujourd'hui ce festival, ça fait chaud au cœur en fait, on voit des gens engagés, des scientifiques, des littéraires, ça fait du bien et multiplions tout ça et gardons cette énergie et ne nous laissons pas complètement déshumanisés par ce qui se passe et surtout combattons la peur. Voilà. Moi j'aimerais dire qu'il faut arriver à une résistance douce, ou Cyril Dion dit une lutte enchantée, mais voilà, j'essaie de garder espoir.
Où transformons la peur? Toi aussi tu travailles sur ces émotions, Eric, c'est quoi ton message, c'est quoi ta porte d'entrée?
Oui, moi de mon côté, j'aime bien souvent dans mes conférences commencer par dire, je vais vous parler de sujets... problématique climat, problématique biodiversité, marine, terrestre, raréfaction des ressources, bref, tous les sujets joyeux. C'est ironique, bien sûr. Et j'arrive en disant, c'est des sujets qui sont complexes. Et complexe, c'est de complexus tissés ensemble. C'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il y a chaque sujet, quand on va vraiment prendre le temps de le regarder, de l'étudier, de lire la littérature sur le sujet, en fait, c'est pas compliqué, on a compris, on sait ce qui va fonctionner, on sait ce qui va pas fonctionner. Par contre, c'est complexe, tout est lié ensemble. Donc, on peut pas se dire, je vais regarder que le climat et le reste, ça me concerne pas. Ça peut un peu écraser, se dire, oula, il y a beaucoup de choses. Mais finalement, ce qui est bien, c'est que...
Alors, c'est quoi les sujets? Tu dis le climat, mais quels sont les autres, toi, qui rentrent dans ton équation?
La crise de la biodiversité, les problèmes d'extinction de masse avec les cinq gros critères de perte de biodiversité qui sont donnés par l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC côté biodiversité, qui nous dit que c'est en premier la destruction des habitats qui nous fait perdre de la biodiversité, en deux, la surexploitation des ressources, si on s'intéresse au milieu marin, c'est par exemple les surpêches. En troisième, et seulement en troisième, même si c'est très important, c'est la crise climatique qui vient faire de la perte de biodiversité. Et puis on a ensuite les sujets de pollution et les sujets d'espèces exotiques envahissantes. Donc c'est important de comprendre tout ça, de faire le lien avec le climat, de faire le lien avec la perte de ressources, que ce soit la ressource en eau, en sable, en tout ce que vous voulez. Et moi j'interviens là-dessus en disant, en fait il va falloir savoir agir. Et pour savoir agir, il faut commencer par savoir, donc d'où mes conférences ou les lectures, apprendre les choses, même si elles peuvent générer des émotions difficiles potentiellement. On va revenir sur ce sujet de peur qu'évoquait Caroline. Et puis du coup, donc savoir agir, une fois qu'on sait, il faut agir. Et pour agir, justement, les émotions de movere en latin nous mettent en mouvement. Et donc il faut s'appuyer sur ces émotions pour se mettre en mouvement. Par contre, ce qui est important, c'est de tempérer un peu aussi ces émotions, de se dire, est-ce que je prends la bonne émotion, est-ce que cette émotion je l'accueille correctement, est-ce que la mise en mouvement qu'elle génère en moi, elle est pertinente. Et je donne souvent cet exemple où moi...
Ne pas être impulsif, et ça vaut pour l'écologie, ça vaut en fait dans tous les domaines de la vie, c'est ça ?
Exactement.
Alors Caroline, cette complexité, toi aussi, qu'est-ce que tu mets toi dans ton équation pour sensibiliser et pour pousser les gens à agir ?
Alors je mets comme Eric, parce qu'on a un plaisir à travailler ensemble, parce qu'on travaille dans le même sens, donc c'est exactement ce qu'il dit. Il y a du lien entre tous ces enjeux, mais il y a du lien aussi et de l'interdisciplinarité avec d'autres disciplines, j'en parlais tout à l'heure. Là on parle de faits scientifiques à avérer depuis une trentaine d'années ou voire plus, mais il y a aussi des liens avec la philosophie, avec l'éthique, et le côté culturel et artistique pour moi est hyper important dans la transmission de ces enjeux. Il y a des gens qui sont moins à l'aise avec le côté scientifique, même si on essaie de vulgariser par des ateliers d'intelligence collective, en s'amusant et ainsi de suite. Mais l'art est très important. Il y a des collectifs comme le collectif Minuit 12 qui fait de magnifiques performances pour sensibiliser autour de ces enjeux. Il y en a d'autres. Au niveau culturel, on le voit par les livres. Donc c'est des leviers très puissants, par le théâtre aussi.
Mais on le sait que c'est puissant. L'Amérique a fait sa domination sur le monde avec son soft power qui est en train d'être détruit par le cinéma, par tout ça évidemment, que la culture... C'est marrant parce que t'as besoin de dire que c'est important comme si ça l'était pas.
Ouais. Justement, parce que oui, le soft power des États-Unis on le connaît, il y a d'autres pays aussi, mais là le but justement, parce qu'on est dans une société quand même où, par exemple sur Toulouse où j'habite, 40% des subventions sur les associations et le milieu culturel ont été quand même diminuées l'année dernière. Donc on voit quand même qu'il y a...
C'est partout en France.
On parle de Toulouse pour donner un exemple précis et chiffré, mais on voit quand même que dans notre politique aujourd'hui et dans nos sociétés, c'est cette culture hors de ce soft power justement, cette culture de résistance, on veut l'étouffer. Et donc agissons, allons voir ces gens-là, donnons-leur des sous plutôt qu'à d'autres, parce qu'il faut qu'elles vivent, et pour moi c'est un levier très puissant. Voilà. Donc c'est...
Parce qu'elle permet de se questionner aussi, de remettre en question des choses.
Parce qu'on joue sur la sensibilité, on joue sur pas forcément sur ce qui se passe dans la tête, mais dans le cœur et dans le corps, et ça c'est très instinctif, et le côté instinctif est très important. Eric parlait des movere, les émotions, et voilà, le fait de se bouger, de se rebouger, de danser, d'interpréter, de chanter, c'est quelque chose d'hyper important.
On va faire une petite pause musicale. Vous avez envie d'écouter quelque chose?
Si, Viva la vida de Coldplay.
Ouais, ça va, ça marche, ça me va. I used to own.
was when I ruled the world.
Alors nous sommes de retour avec Caroline Vigier-Calmette et Eric Cross, tous les deux donc formateurs évidemment aux enjeux environnementaux. Alors j'imagine que pendant vos formations, vos conférences, vous parlez aux gens des dangers qui nous guettent, mais je pense aussi que vous les invitez à agir, à se mobiliser sur des causes. Quels sont les messages que vous essayez de passer? Et j'imagine selon les publics, j'imagine que vous ne dites pas la même chose à un politique, à un enfant, à tous ces publics que vous rencontrez qui sont divers.
Oui, bien sûr, on a des messages différents pour la simple et bonne raison qu'en fait c'est vraiment ça fait 200 ans qu'on fout le bordel à 8 milliards, donc on va pas résoudre le truc en 5 minutes tout seul. Par contre, c'est vraiment du collectif, on a tous des leviers, donc ils sont plus ou moins gros, mais on doit tous pouvoir agir, et donc c'est pas les mêmes leviers d'action, mais faut pas se cacher, on peut tous agir. Moi j'interviens pas mal en entreprise, donc dans le secteur professionnel, j'encourage les gens à certes s'intéresser au sujet au niveau perso, on donnera des exemples après, parce que c'est important, mais déjà se dire ok, c'est quoi la mission de mon entreprise, comment j'interviens, et par exemple si je suis intéressé par la pollution plastique, le plastique, tout ça, ok, bah, comment je change la politique d'achat ou comment je m'intéresse à la politique d'achat de mon entreprise pour que j'actionne ce levier ou j'aide à actionner ce levier, par exemple.
Donc on peut agir dans les entreprises. Toi, par exemple, sur ce même public, tu rencontres aussi des publics d'entreprises ?
Alors oui, j'en ai rencontré aussi, parce que j'ai aussi travaillé en entreprise, et j'aurais aimé à l'époque, dans l'entreprise, pouvoir bénéficier de jours de formation. Donc c'est sûr que les managers, les directeurs de boîtes, qui mettent du budget là-dessus, parce que c'est important que leurs salariés soient formés. Alors on peut appeler ça de la RSE, le mot est
responsabilité sociale, sociétale et environnementale.
Donc dans les entreprises, on peut effectivement organiser des ateliers, on peut se lier à des associations et que les salariés puissent avoir des jours pour aller dans ces associations. Donc voilà, tout ça c'est important, il faut que dans la politique de l'entreprise, ce soit intégré et qu'il y ait du temps donné, parce que ce n'est pas du temps perdu.
Voilà. Pour la conscience, la prise de conscience.
Oui, prise de conscience, et puis le fait, comme disait Eric tout à l'heure, de se bouger en fait, d'agir et de donner du sens aussi à son quotidien et à son travail.
Les choses ultra concrètes aussi, en entreprise, ça va être refaire le bilan carbone chaque année et le mettre au même niveau que le bilan économique. Et donc chaque année publier le bilan carbone d'entreprise et le bilan économique. Et puis une fois qu'on sait faire ça, on peut s'intéresser à des bilans biodiversité, bilan ressources, etc.
Et de trouver les solutions ensemble, parce que c'est souvent de l'entreprise qu'elle peut naître, des gens eux-mêmes qui sont dans le métier, qui se rendent compte du gâchis qu'ils peuvent faire, des conneries, des bêtises qu'ils peuvent faire.
Il y a tous les outils, c'est vraiment dans la culture de l'entreprise, avoir des indicateurs, les suivre, s'améliorer, chaque année on fait un entretien. Donc en fait il y a déjà tous les outils et l'état d'esprit pour faire ça. Donc quand on a des dirigeants, des managers, si vous mettez ça en place, forcément les gens ils vont bosser.
Et je dirais aussi là-dessus, côté entreprise, que les directeurs en fait se penchent sur d'autres types d'économies, okay, pas de l'économie extractiviste. On commence à parler de plus en plus d'économie régénérative. Il y a quelques années, il y a déjà 20 ans, on parlait d'économie circulaire, on parle aussi d'économie de la fonctionnalité. Donc il y a plein de choses à faire bouger au sein même de l'économie et de ne pas tout orienter vers le PIB. Essayez de voir aussi que ces nouvelles économies, elles ne feront pas perdre de l'argent, mais en intégrant toute la databilité qu'on doit avoir sur l'ensemble des enjeux, elles vont en faire gagner, parce que sinon on va se prendre un mur économique très très fort.
Et ça fait le lien, parce que une entreprise, elle doit quand même gagner de l'argent pour, c'est pas mal, pour faire vivre, pour payer ses salariés, etc. Et donc il y a une vraie logique, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise qui va prendre en compte correctement, réellement, ces enjeux, elle va, et c'est déjà le cas petit à petit, gagner plus d'appels d'offres de la fonction publique, parce que petit à petit dans les appels d'offres, dans la note, compte aussi l'impact environnemental. Et donc ça fait le lien quand on voit des élus, des politiques ou des hauts fonctionnaires, pour mon cas, leur dire qu'est-ce que vous mettez dans vos appels d'offres? Est-ce que vous encouragez ou pas? Il est là, le levier pour vous. Donc là, je passe côté secteur public.
Et donc dans la fonction publique, toi, Eric, tu y vas beaucoup, tu rencontres des hauts fonctionnaires. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois des gens qui ont conscience qu'ils peuvent agir ou pas, ou quoi?
Malheureusement, pas au niveau de ce que je souhaiterais. Je vois le même panel, en fait, que ce soit en entreprise, en collectivité, en école d'ingénieurs, voilà, ou en fonction publique. Des gens qui savent et qui veulent agir, mais qui sont dépassés. Des gens qui ne savent pas, qui apprennent et qui, du coup, vont peut-être se mettre à agir. Et des gens qui ont très envie et qui voient à peu près comment faire. Donc, c'est toujours un peu mixé. Et l'idée, moi, je leur rappelle, voilà, là, le gros levier en fonction publique, c'est la politique d'achat, en fait, de commande. Si vous dites, ben, tel marché, il y a 30% de la note, ce sera comment vous gérez les enjeux environnementaux et que c'est très précis, que ça contraint, forcément, ça va impacter, quoi.
Le bulletin de vote, c'est important, mais l'argent qu'on dépense détermine énormément le monde dans lequel nous vivons. Et ce monde qu'on prépare pour demain, dans la fonction publique, on pense évidemment aussi à enseignement. Toi, Caroline, tu vas, enfin vous allez tous les deux, je crois, mais surtout toi, Caroline, tu vas dans les écoles, tu vas dans les lycées. Qu'est-ce que tu vois et quel message tu essaies de leur passer et comment tu les invites à agir ?
Alors oui, je vais parler école, lycée et l'enseignement supérieur aussi. Je pense que c'est hyper important, dès le plus jeune âge, de sensibiliser. Alors pas de faire peur, parce qu'on peut vraiment faire peur à des enfants. Mais clairement, que les maîtresses puissent faire appel à des animateurs pour faire des ateliers, qu'elles puissent intégrer ça dans les enjeux, mais de façon assez joyeuse, parce que j'ai vu des situations assez compliquées, voilà, parce que ça fait peur. Dans les collèges aussi, et dans les lycées. Et dans l'enseignement supérieur, clairement, à une époque, les ministères de l'Éducation avaient mis en place aussi tout un texte pour inciter d'intégrer dans les programmes ces enjeux.
Ça y est plus.
Alors si, ça y est, puisque c'est obligatoire, mais c'est souvent une lutte politique avec les directions, parce que on veut garder les heures sur, par exemple, des sciences dures ou sur ce que fait l'école, dans une école de commerce ou ailleurs, et c'est compliqué, et pourtant c'est tellement bénéfique. Donc clairement que les maîtresses, les enseignants, les chercheurs aussi intègrent tout ça, c'est hyper important, et qu'on continue, qu'on lâche pas, parce qu'en ce moment il y a un peu de recul, mais c'est pas grave, c'est un peu les montagnes russes, mais il faut continuer, voilà.
Il faut que l'écologie rentre dans l'équation, et pour résoudre les problèmes, il faut que ça rentre dans l'équation pour pouvoir le résoudre.
Et je veux juste rajouter quelque chose, justement, utilisons ces enjeux sociaux environnementaux pour utiliser des nouvelles méthodes pédagogiques. Moi, j'ai à cœur d'intégrer dans les formations du théâtre forum, des méthodes d'arpentage, des choses vivantes. Méthodes d'arpentage, c'est des méthodes d'éducation populaire, mais les étudiants adorent ça, en fait. Des débats, enfin des choses vivantes, parce qu'on se rend compte aussi que dans l'éducation, il faut qu'on la remette à jour et qu'il y ait de l'interdisciplinarité.
Et quand vous faites des formations et des conférences auprès du grand public, on va dire, le non spécialisé, du lambda, du citoyen, quel est le message que vous passez ?
Il y a vraiment ce message de passer à l'action, que c'est du sport collectif, tout le monde doit y passer, même si individuellement on a des leviers un peu plus petits, ils sont quand même importants. Une étude de l'ADEME avec Carbone 4 sur les bilans carbone montrait que c'était 25% de la baisse des bilans carbone qui était liée à nos actions individuelles, donc 25%. Faut pas être naïf, ça suffira pas, mais c'est quand même pas rien. Ou alors, si 25% pour vous c'est rien, donnez-moi 25% de votre salaire et de vos congés.
Et puis si on se met à faire des choses soi-même, si on se met à les faire, le monde se transforme autour, c'est-à-dire on va faire des effets boule de neige avec les gens autour, et puis quand on va voter, on va avoir conscience des choses et de ce qu'il faut faire, donc on aura un regard peut-être plus critique sur les choses. C'est en faisant qu'on apprend aussi, qu'on apprend.
Oui, la connaissance s'acquiert par l'expérience, le reste n'est qu'information. Et ce que j'aime bien dire, c'est que justement, être dans l'action pour les solutions, ça rend heureux, alors que d'être assis, éberlué et sidéré à lister les problèmes, c'est la voie à rêver, malheureusement, pour la dépression. Donc agissez, ça rend heureux. Donc dans les actions toutes simples que je donne, ça va être, selon le niveau de chacun, mais faire son compost, et aller vers une démarche zéro déchet, faire son bilan carbone sur le site de l'ADEME, nosgestesclimat.fr, qui donne des ordres de grandeur, échanger ce qu'on peut changer, voir ce qui est bon pour nous, en parler avec les autres, aller dans des collectifs.
Oui, aller dans des assos aussi. Il existe une richesse d'associations, soit sur la sensibilisation des enjeux. Alors, on connaît les fresques, les ateliers d'automne. Il y a plein de choses autour de ça. On peut devenir, comme on a fait avec Eric, soi-même animateur de ces ateliers. On peut aller aussi au niveau alimentation, faire attention à son alimentation, aller dans des AMAP, aller dans... Voilà, et tout ça, c'est des collectifs, en fait. Ça peut être des collectifs artistiques aussi. J'ai parlé de l'art et c'est hyper important. Moi, je fais du théâtre d'impro, et dans le théâtre d'impro, on peut avoir des enjeux comme ça, on peut en parler dans le théâtre, on peut en parler dans la danse, donc aller rejoindre des collectifs pour que individuellement les uns les autres on se relie en fait.
L'interaction humaine, lâchez vos télés, éteignez vos télés, sortez de chez vous, des écrans en général, les téléphones maintenant c'est encore pire que la télé, parlez-vous, c'est super, je pense qu'on est là sur un beau message de fin. On reste là-dessus, un mot complémentaire
sur l'alimentation, végétaliser son assiette. Moi, j'ai été élevé, je suis de Carcassonne, j'ai été élevé au cassoulet, au foie gras, au magret, etc. En 10 ans, je cours plus vite qu'à 10 ans. En termes de sport, je suis en bien meilleure santé depuis que j'ai végétalisé largement mon assiette. Donc, ça fait du bien pour l'environnement et ça fait du bien pour soi. Donc, mangez mieux, et soyez heureux.
Un conseil de lecture pour les auditeurs de l'Ours et la Carotte. Voilà, ça va être votre instant formation pour les auditeurs de l'émission. Un livre, un site.
Alors moi j'ai parlé prospective tout à l'heure parce que je l'enseigne, donc il y a un bouquin que j'aime beaucoup qui donne de l'espoir aussi, c'est les éditions de la mer salée, s'appelle Les Utopiennes 2043, il y a deux bouquins qui sont sortis, c'est des petites nouvelles et j'aime beaucoup, voilà, donc je vous la conseille.
Ça donne de l'espoir ?
Oui.
Quelque chose est possible, on ne va pas tous mourir.
Non, et puis continuons à poétiser le monde et à lire des poèmes aussi, ça fait du bien.
Moi je lis beaucoup de philo. En tout cas, de manière générale, lisez de la philo. Et puis, pour faire plus simple, sinon, lisez Marc Aurèle, hein, tout simplement.
Marc Aurèle, qui est un empereur. Alors, c'est un peu compliqué à lire, quand même, Marc Aurèle.
C'est pas si compliqué à lire, Marc Aurèle. En gros, c'est...
J'ai essayé. Je t'avoue, très franchement, j'ai essayé. Mais sur la plage.
Mais juste, lisez 2-3 citations, quoi, voilà. Et vous verrez, ça fait du bien. Peut-être, mais moi, j'aime beaucoup de Arne Naess, Une éco-sophie pour la vie.
Introduction. Arne Naess, comment t'écris ça ?
A-R-N-E.
Ça, c'est le prénom ?
C'est le prénom. C'est une personne des États scandinaves. Et Naess, N-A-E-2-S, pour le nom de famille. Introduction à l'écologie profonde.
Une écosophie pour la vie, très bien. On rappelle vos noms parce que vous en vivez aussi. Hein, s'il y a des gens qui sont intéressés par des formations, Caroline Vigier-Calmette, on te trouve si on tape Caroline Vigier-Calmette.
Ou même sur LinkedIn. Alors, j'aime pas trop les réseaux, mais je suis encore sur LinkedIn, peut-être pour trop longtemps. Mais voilà, Caroline Vigier-Calmette, je suis facilitatrice, formatrice et créatrice de formations. Voilà.
Et donc Eric Cross, CROS, on me trouve sur LinkedIn ou sur mon site web de la société qui s'appelle Systémique, puisque je prends une vision systémique des enjeux. Et comme j'ai un passé de plongeur scientifique, c'est Systémique, SEA comme la mer, STEMIC.com.